Bonjour Olivier, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour, cher Zad.
Très bien, on attend simplement que les deux jurys quittent la salle. Et puis
Bon,
après,
heureusement.
on a un temps d'échange avec notre public qui est composé de pas mal de scolaires aujourd'hui.
Très bien.
Donc, on va pouvoir
C'est eux que ça
échanger.
concerne au premier plan, beaucoup aussi.
Et ben vous allez pouvoir nous dire pourquoi ça les concerne tant, un peu prolonger ce qu'on a vu dans votre film. Voilà, ça y est, les deux jurys ont quitté la salle, donc nous on peut vous voir sur grand écran, vous ne pouvez pas nous voir, mais on a un deuxième micro qui va circuler pour pouvoir permettre au public de prendre la parole aussi. Donc justement, vous dites, ça les concerne, la jeune génération. Pourquoi ça les concerne plus que les autres? C'est un enjeu d'avenir.
Ça concerne tout le monde évidemment, mais c'est vrai que l'Arctique est un des endroits de la planète qui est assez déterminant, qui est loin de nos centres d'intérêt traditionnels et qui pourtant, par son évolution, par les enjeux qui s'y passent, est essentiel. Il y a évidemment le réchauffement climatique qui est l'impact principal avec toutes les conséquences que ça a en termes de fonte de la banquise, de montée des eaux, de ce qui est expliqué en début du film d'ailleurs, et ce qui a officiellement été les Chinois dans cette aventure du Grand Nord. Et c'est évidemment parce que c'est aussi pour certains pays et certaines compagnies, c'est un peu le dernier Eldorado de la planète. Donc c'est un enjeu essentiel dans le sens pour ces jeunes générations, savoir quel genre de société on veut à l'avenir. Est-ce qu'on veut aller exploiter tous ces territoires-là qui sont ultra sensibles? C'est tout ça que ça pose comme question aussi, bien sûr.
Vous travaillez hein, beaucoup sur ces pays nordiques, vous avez beaucoup travaillé pour la presse française, comme correspondant notamment pour le journal Le Monde et pour d'autres médias. Peut-être que vous pourriez nous dire quel a été le point de départ de ce travail documentaire. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait dans la presse. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste d'abord de ces enjeux environnementaux considérés par la Chine comme des enjeux de premier plan et qui en fait, vous nous le faites découvrir au fur et à mesure de ce film, révèlent d'autres ambitions?
L'histoire avec la Chine arctique qu'on raconte dans ce film, en fait, pour moi, comme vous l'avez rappelé, j'étais correspondant en Europe du Nord depuis longtemps. Ça fait plus de 25 ans que j'habite à Stockholm, en fait, en Suède. Et comme journaliste, j'ai suivi de près, en fait, les questions arctiques depuis longtemps maintenant. Et j'ai vu, en fait, arriver dans les conférences arctiques qui se passaient à Tromsø ou ailleurs dans le Grand Nord, quand les Norvégiens notamment, parce qu'ils ont été côté européen, ils ont été assez à la pointe pour s'intéresser au développement de la zone arctique de l'Europe pour des raisons économiques, tout simplement parce que le pétrole et le gaz de la mer du Nord arrivaient à bientôt, ils devaient anticiper le pic de production. Donc, ils ont commencé à se tourner vers le Grand Nord, vers l'Arctique, pour développer des nouveaux gisements. Et j'ai accompagné ce mouvement, moi, en tant que journaliste, pour suivre ça. Et petit à petit, j'ai vu dans les conférences des gens.
Alors
J'ai vu
attendez, Olivier, vous
des
avez été un
Chinois
tout
qui
petit peu
étaient dans le
figé.
public d'abord.
Excusez-moi, vous avez été un tout petit peu figé. Vous voulez bien juste reprendre un tout petit peu en arrière?
Oui. Alors, je ne sais pas où en arrière, mais j'étais simplement en train de dire qu'en fait, au fil de mes reportages et de mon intérêt pour l'Arctique en tant que correspondant, j'étais amené à voir la présence des Chinois, et puis à la table des orateurs, et puis à voir des compagnies qui arrivaient, qui s'intéressaient, qui prenaient des contacts avec les uns les autres. Donc avoir vraiment physiquement, si vous voulez, la présence chinoise augmentée dans l'Arctique. Leur intérêt, ils y allaient vraiment avec des pincettes. Ils n'y allaient pas à la façon gros bulldozer, vous allez voir ce que vous allez voir. On voyait qu'ils étaient très prudents. On compare souvent avec on a souvent en tête la Chine-Afrique, hein, avec une présence massive de compagnies chinoises et des grands travaux, etc., à l'échelle d'un continent. C'est différent dans l'Arctique pour la simple raison que dans l'Arctique, les Chinois sont face aux Américains, aux Russes, à l'Union européenne, etc. Donc c'est un autre type de rapport qui se joue. Encore, c'est l'argument, c'est assez frappant, c'est-à-dire qu'ils y vont au départ prudemment, ils mettent en avant systématiquement le risque climatique, notamment Shanghai, c'est pour ça qu'on a été filmé à Shanghai, le risque climatique pour Shanghai, la montée des eaux, le risque qu'à quelques décennies d'ici, Shanghai soit en partie sous les eaux, le risque, les dangers déjà pour l'agriculture chinoise avec le dérèglement climatique, notamment qui est initié par les bouleversements dans l'Arctique. Donc tout ça, ça fait d'excellentes raisons, tout à fait légitimes et respectables pour les Chinois de s'intéresser à l'Arctique en disant ben, on va aller étudier ce qui s'y passe parce que ça nous touche aussi nous personnellement. Donc ça, et on voit en fait que ce qui est intéressant avec l'approche chinoise, c'est qu'ils y vont doucement au début, mais systématiquement. Et le meilleur exemple, c'est ce fameux brise-glace qu'ils achètent dès 1993, un cargo ukrainien qui transforme en brise-glace dès 1993. Il y a ensuite l'histoire assez insolite du Svalbard, où grâce aux Français, à un traité signé grâce à l'aide des Français il y a un siècle, ils arrivent à construire une station scientifique au Svalbard. En 2004, à mettre vraiment un pied dans l'Arctique. Tout ça, donc, ils y vont doucement par le biais de ce qu'on appelle dans le film la diplomatie scientifique. C'est cette approche assez soft, on va dire, des Chinois dans la région.
Alors, merci Olivier. Est-ce que dans la salle, on a des personnes qui ont envie de poser une question ou de partager une remarque? Oui, si on peut faire remonter le micro jusque-là. J'en profite pour vous partager une petite blague de la salle sur la connexion. On a l'impression que c'est peut-être un coup de la Chine pour nous faire taire. Alors, on a une question dans la salle.
Donc, merci pour votre film. J'avais en fait une petite interrogation par rapport au... je dirais à la Chine, bon, c'est vrai qu'il faut quand même s'en méfier parce que... Notamment à Djibouti, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas déployer de bases militaires. Et quelques temps plus tard, c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est vrai qu'entre ce que Xi Jinping peut dire à la face du monde et ce qu'il fait réellement, on peut s'interroger sur ses intentions. Ensuite, je voulais savoir par rapport au milliardaire, enfin millionnaire chinois, donc qui avait essayé d'acheter les fjords. Est-ce qu'on a vraiment, on sait vraiment ce qu'il fait, si réellement Chine, il développe et il gère en fait des centres, 5 étoiles pour les Chinois, ou est-ce que c'est une couverture pour justement acquérir des territoires à l'étranger?
Alors c'est de fait, la question était un petit peu hachée aussi pour moi, mais j'ai compris, je pense, la nature de votre question. De ce qu'on sait, en tout cas, pour Wang Nubo, donc ce fameux milliardaire chinois, qui a un profil assez intéressant, assez typique, en fait, hein, de ces oligarques chinois. Sur place en Chine, il a de fait réellement construit, c'est réellement un magnat de l'immobilier. Donc là-dessus, ça ne paraît pas contestable. Ensuite, la question que vous posez est essentielle et à ce jour sans réponse. C'est vrai que c'est ce qui a mobilisé contre lui cette levée de bouclier, le risque de transformation de base militaire. Vous citiez Djibouti à très juste titre. Les Chinois disent mais Djibouti, c'est pas une base militaire au sens où vous l'entendez, c'est pour combattre la piraterie qui est au large du canal de Suez, etc. Donc c'est différent. Bon, on n'est pas obligé de les croire sur parole. Hein. On voit quand on voit les déclarations qu'ils font régulièrement sur Taïwan, il y a toutes les raisons d'être extrêmement prudent, etc. Et ça vaut aussi pour d'autres projets ailleurs dans le monde. Dans l'Arctique, une fois encore, pas oublier que soient les projets dont on parle, à savoir en Norvège ou en Islande, ce sont des pays qui sont membres de l'OTAN aussi. Donc, inutile de vous dire que ces pays-là sont extrêmement attentifs à tout ce qui se passe, tout ce qui vient de Chine. C'est un clin d'œil, mais il se trouve que la série Borgen, qui est la nouvelle saison de Borgen, qui va être diffusée sous peu, traite de ce problème-là, de l'ingérence chinoise au Groenland. Donc, vous voyez, on est en plein dedans, mais il y a évidemment ce risque, il y a évidemment cette inquiétude que, aussi à long terme, on n'y est pas encore, mais que la Chine puisse soit en capacité d'avoir une présence sous-marin nucléaire dans l'Arctique, ce qui serait un vrai basculement en termes de géopolitique et de géostratégie. Ils n'en ont pas la capacité aujourd'hui, mais le fait qu'ils aient maintenant des brise-glaces et qu'ils soient en train de construire un brise-glace nucléaire, c'est aussi un développement technologique qui peut petit à petit leur permettre d'aller vers ça. Donc on est avec ce documentaire, on est très en amont encore hein, par rapport à tout ce qui se passe. C'est un documentaire d'alerte quelque part. Mais il y a beaucoup, toutes les questions que vous posez sont encore ouvertes. Il n'y a pas de réponse. Personne n'est en capacité aujourd'hui de donner des réponses complètement claires là-dessus.
Vous le dites, hein, des risques d'ingérence, mais également des risques, comment dire, de stratégie, de complicité peut-être incontrôlable d'un point de vue mondial. Là, avec la guerre en Ukraine, par exemple, le rapprochement Russie-Chine à certains endroits peut poser des questions ailleurs. À un moment donné, c'est dit hein, dans le film qu'il y a un espèce de jeu aussi de vase communicant avec d'autres enjeux et endroits géopolitiques comme les Nations Unies. Qu'est-ce que
tout
ça
à fait.
Tout à fait. Vous vouliez révéler.
Vous avez tout à fait raison de citer l'Ukraine. Il se trouve que ce documentaire a été fait avant, hein, évidemment, mais tout le travail, par exemple, au sein du Conseil Arctique, qui est l'instance un petit peu informelle de négociation dans l'Arctique, est suspendu actuellement. C'est-à-dire il y a 8 pays qui constituent les 8 pays du Conseil Arctique, dont la Chine est observateur au même titre que la France, mais les 8 pays membres de... Sur les 8 pays, 7 pays, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Norvège, tout ça, se sont retirés actuellement, depuis l'invasion de l'Ukraine, du travail du Conseil Arctique. Donc la Russie, qui préside actuellement ce Conseil Arctique, reste seule. Pour l'instant, le Conseil Arctique est une coquille vide. Il y a de fait aussi, comme on le montre dans le documentaire, comme c'était passé après l'annexion de la Crimée en 2014, où de fait la Chine était venue remplacer les Occidentaux qui avaient dû quitter tout le gisement de Yamal, tous les projets de Yamal dans le nord de la Sibérie, de gaz liquéfié, ont été remplacés. Dans la période actuelle, c'est-à-dire avec l'invasion de l'Ukraine, on voit que les Chinois sont beaucoup plus prudents pour l'instant. Ils sont, comme ils le font, je pense, comme pour Taïwan, ils observent beaucoup ce qui se passe, ils observent l'impact des sanctions, ils ne se précipitent pas actuellement à remplacer absolument les Occidentaux qui quittent la Russie pour prendre la place. Parce qu'il y a des tas d'implications, et on le voit bien dans toutes les discussions qu'il y a au sein de l'Union européenne, on maîtrise encore mal les implications totales de ces sanctions, les conséquences à court, moyen et long terme, et les Chinois observent beaucoup ça. Donc, est-ce que s'ils allaient remplacer tout de suite au pied levé les Occidentaux, Total notamment, qui gèle ces investissements à Yamal, quelles seraient les conséquences pour les intérêts chinois ailleurs? C'est pas seulement à l'ONU, c'est partout ailleurs, c'est au niveau des marchés mondiaux, etc. Donc beaucoup de choses qui sont en train de bouger actuellement, beaucoup d'incertitudes, et les Chinois qui ont le temps pour eux, prennent des notes, observent, et on l'a entendu il y a quelques jours avec l'ambassadeur de Chine en France, qui disait bien qu'ils n'étaient que des partenaires de la Russie, pas des alliés. Le choix des mots est important.
Peut-être une autre question ou remarque dans la salle. Alors, Une dernière, avant de vous quitter, Olivier. Sur la fin du film, on entend Mike Pompeo avoir un discours très agressif, très ferme vis-à-vis de la posture de la Chine et de ses ambitions en Arctique. Depuis, la présidence américaine a changé. Vous l'avez dit, hein, le Conseil Arctique est suspendu, mais est-ce que la position américaine est toujours celle-ci? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est plus conciliante?
Si on entend, si on entend Biden et ses déclarations sur la Chine, c'est pas. Alors, j'ai pas une réponse exacte à votre question hein, sur la position actuelle américaine vis-à-vis de la Chine dans l'Arctique, là-haut. Je pense que les États-Unis, de toute façon, sont dans une séquence actuellement où ils sont assez offensif en fait, en tout cas en parole, après en acte. Enfin, sur l'Ukraine, ils sont très actifs et ils engagent beaucoup d'argent. La Chine reste pour les États-Unis un adversaire évident, et donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'à court terme ça se détende beaucoup. De toute façon, le Conseil Arctique est suspendu pour l'instant. Ça ne veut pas dire que les affaires s'arrêtent évidemment, mais ce qui est évident, je pense en tout cas, c'est que les États-Unis vu la situation changeante dans l'Arctique et sachant que la Russie c'est 40% de l'Arctique, hein, c'est les maîtres de l'Arctique en termes de capacité de brise-glace, etc. Ils ont une longue expérience, les Russes de l'Arctique. La Chine...
Ça va revenir. Alors, je ne sais pas si vous entendez, Olivier, ça a été un petit peu haché.
Évidemment.
Excusez-nous, ça a été un petit peu...
Là, je vous entends plus, par contre.
Ça a été un tout petit peu coupé. On s'est arrêté au fait que la Russie était maître de l'Arctique, en fait, en détenant 40% des terres et des brise-glace. Est-ce que vous pouvez reprendre à cet endroit-là ce que vous nous disiez?
Non, juste pour dire que c'est quasiment impossible de se passer de la Russie dans l'Arctique, en fait, vu la prépondérance de la Russie dans la région, vu sa puissance, sa capacité en termes de brise-glace, sa connaissance tout simplement des voies maritimes qu'ils ont pratiquées depuis un siècle. Imaginez que grand chose se passe actuellement, ça paraît assez illusoire. Quant aux États-Unis, ce qui est clair, c'est que étant donné que les Chinois ne peuvent pas faire grand chose dans l'Arctique sans les Russes, il va y avoir, je pense, qu'on va entrer dans une période d'attente et d'observation en attendant que ça se passe en Ukraine.
Merci beaucoup, Olivier. Donc, on fait vivre votre documentaire d'alerte et puis on regarde la prochaine saison de Borgen, c'est ça? Pour comprendre et prolonger. Merci.
Voilà,
merci en tout cas d'être avec nous à distance.
Bon festival.
Et on vous tiendra au courant du palmarès du FIGRA 2022. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir.